Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm. C'est le moment à corps au corps. Jouer, déjouer, rejouer, l'inventaire animé. L'inventaire animé est une conférence mouvementée, présentée très récemment en mars au Théâtre Le Mouffetard. Et nous retrouvons pour cette seconde partie Claire Egan et Elsa Markel-Liénard, notamment au sujet d'Étienne de Crous. Et puis nous allons évoquer différents spectacles du Théâtre du Mouvement. Et puis également le Pierrot lunaire d'Arnold Schoenberg que Elsa Markel-Liénard a mis en scène, a mis en mouvement avec les musiciens de l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Pour introduire cette émission, j'ai simplement envie de dégrainer quelques titres ou les titres de quelques créations du Théâtre du Mouvement parce qu'ils sont très évocateurs. Et qu'il raconte d'eux-mêmes le chemin poursuivi par le Théâtre du Mouvement depuis maintenant 50 ans. Puis laisser la parole à Claire. L'inventaire animé, Laps, Eterna, Ombre claire, Encore une heure si courte, Carnet de route, Les choses étant ce qu'elles sont, tout va aussi bien que possible. Je pense, donc ça se voit, Équilibre instable, Le chemin se fait en marchant. Blanc sous les masques. Faut-il croire les mimes sur parole ? L'attitude croisée. Le petit sépou. Le chant perdu des petits riens. Si la Joconde avait des jambes, siège ou chronique d'une peur chronique. Limite atteinte. Lettre au porteur. Attention la marche. Immobile. Catherine et l'armoire. Tant que la tête est sur le cou. Cartoon. Les mutants. La recréation. La théâtralité du mouvement. Les arteilles du marionnettiste. Le masque neutre à fleur de peau. Les vertus de la marionnette idéale.
A été très influencé par Craig. Il a été très influencé par ses idées sur ce que devait être l'acteur. Et en élaborant son mime corporel, il pensait répondre à la demande de Craig d'un acteur d'une surmarionnette, en fait. Un acteur qui était une surmarionnette. Et en fait, Craig a dénié ça, mais par contre, il a reconnu le travail de Grammarian de Crous, en fait. Et voilà. Donc, la différence entre deux, c'est qu'au niveau l'apprentissage pour de Crous se fait à partir du corps humain, et l'apprentissage chez Craig, c'est à partir de l'objet. La formation se fait à partir de l'objet. Donc il y a parce que l'objet, il peut pas trahir. Il peut pas trahir avec par ses émotions. L'objet, il a pas d'émotions en fait. Donc c'est à l'acteur de se plier à l'objet pour jouer, pour faire jouer en fait. Alors que Ducrot, il va se retrouver avec un corps humain, et là aussi il va essayer que l'acteur ne soit pas pris par ses émotions, mais qu'il soit une marionnette idéale, en fait. Mmh. Et donc, pour être cette marionnette idéale, ben, il fallait élaborer un système qui garde les vertus de la marionnette idéale. D'où toute sa grammaire, toutes ses grammes, tout ça, quoi.
Craig, c'est aussi un scénographe, un plasticien, quelqu'un alors, qui va travailler Craig, sur les lignes. On est dans une révolution un peu de la peinture aussi, non de...
Oui, alors lui, il était acteur.
D'accord.
Au départ. Et en fait, il a révolutionné le théâtre, mais plus largement que le mime corporel. Hein. Il a révolutionné le théâtre en enlevant tout ce qui était à l'époque sur scène, c'était du vérisme. C'est-à-dire, c'est comme au théâtre ce soir, où t'as le canapé, les machins, les trucs, bon voilà. Donc, lui, tu vois quoi ? Tu vois des rideaux, tu vois des raies de lumière, tu vois des marches. Tu vois, tu as des plans, c'est quelque chose de très plastique, mmh. en fait. Mmh. Et donc, et l'acteur, ben, il doit faire partie de ça. Mmh. Tu vois, il ne doit pas dégorger d'émotions. Il doit participer de cette chose-là. Mmh. Donc, alors, il a écrit beaucoup de choses. Il avait une revue. Il a été le compagnon d'Isadora Duncan. Mmh. Il a été, bon, voilà, il est allé en URSS voir comment ça se passait au niveau du théâtre.
C'est meilleur rôle.
Voilà, c'est ça. Donc, il a révolutionné le théâtre, si tu veux, au niveau de la scénographie, au niveau de l'éclairage et au niveau de l'idéal d'acteur qu'il cherchait. Voilà. Donc il a été suivi par pas mal de monde. Et puis après, et Ducrot, entre autres, qui a entretenu une correspondance avec lui. Mmh. Et la fille de Craig est venue travailler avec Ducrot.
D'accord.
Voilà.
Elsa, il n'y a pas d'équivalent chez Schoenberg, Berg. Tu peux nous en dire un tout petit mot comme... Bon, parce que c'est vrai que là, quand on pense à l'explosion comme ça de la scène, on va dire, vérisme ou naturaliste, mmh. on pense à l'expressionnisme, on pense à même l'abstraction, Kandinsky, etc. Et l'équivalent dans la musique, c'était en même temps, en fait. Tout a explosé un peu en même temps.
Mmh. Oui, tout a été bouleversé pendant ce 20e siècle. Alors, bien sûr, Schoenberg a été un des premiers... grand pilier de ce chamboulement par rapport à la tonalité et au sérialisme. Il y a eu beaucoup avec avec les expositions universelles, etc. Comment aussi l'influence des musiques extra-européennes a pu nourrir tous les compositeurs du XXe siècle dans le rapport au temps, le rapport à la tonalité, le rapport au microton, le rapport au rythme, le rapport aux qualités sonores, etc. Donc c'est vrai que cette... ce que Étienne Ducrot dit sur un art suppose une analyse, une décomposition, une recomposition, c'est vrai que c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans le XXe siècle, dans tous les arts.
Mmh. Et encore une heure si courte, on est dans la fusion totale, et en fait, il n'y a plus qu'un langage, mais qu'à fusionner tout. Non, un petit peu.
Fusionner tout, je ne sais pas. En tout cas, ça a été la rencontre de deux musicalités, en fait. La musicalité des partitions et des textes de Georges Apergis. Et la musicalité du mouvement, qui pour nous nous donnait à l'époque la notion de théâtralité, en fait. On pouvait théâtraliser le mouvement en le musicalisant, en fait. Alors ça c'est pour relier à Ducrot aussi, on peut dire, quand on est sorti de l'école, on revenait régulièrement revoir Ducrot. Et puis un jour, alors c'était souvent les longs monologues de Ducrot qu'on écoutait religieusement. Et puis un jour, d'emblée, il nous dit, bah, écoutez-moi, expliquez-moi un peu quelle sorte de mime vous faites là. À l'époque, on travaillait sur une pièce qui s'appelait « Équilibre instable mm-hmm. ». Et qui est toute faite de rythme, de causalité d'une partie de corps sur son propre corps ou sur le corps de l'autre. C'est un duo, en fait, inspiré d'un tableau de Paul Klee qui s'appelle l'équilibre instable aussi.
Ah oui.
Voilà. Donc, on jouait sur l'instabilité, tout ça. Et il était très intéressé par ça et il nous dit, je vois, vous faites du mime musical. Et pour ma part, en 4 ans et demi d'école, tous les jours, j'avais jamais entendu de groupe parler de mime musicale. Donc nous, ça nous a fait pite. Et on s'est dit, mais oui, bien sûr. Et on a toujours été... La musicalité était toujours présente avant, mais là, ça nous a confirmé dans le fait qu'il fallait continuer là-dedans. Mmh. Donc, mime musicale, Suzanne Bing, De Croux, mime musicale, nous, Équilibre Instable, et puis alors, du coup, on a enchaîné. Et en fait, on a connu Georges en allant faire un stage de théâtre musical à Aix-en-Provence, en 86. 1986. Bon, on s'était inscrit dans des stages différents, il fait moi, puis... Bon, finalement, les choix que j'avais faits ne me plaisaient pas trop, puis Yves non plus. Mais je suis allée regarder, je suis tombée sur Edith Scobb et Martine Viard, qui faisaient travailler justement ces petits textes musicaux et tout. Et là, ça m'a vraiment branchée. J'ai dit, viens voir un peu... Et là, à l'issue du stage, on a vraiment eu envie de continuer. Et on a demandé à Georges, est-ce qu'on pourrait... Il dit, j'avais écrit des partitions pour mes acteurs, mais ça les branchait pas trop, je vais les chercher. Puis finalement, au bout d'un temps, il dit, non, ça c'est pas très bon, donc je vous donne, vous prenez les textes et les partitions que vous voulez, donc il y a énumération, conversation, etc. Et je vous propose de travailler avec un conseiller musical et qui était Richard Dubelski, avec qui qui était lui-même aussi en stage à Aix-en-Provence. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Voilà, on a travaillé les textes dur. Et moi, comme j'ai fait la mise en scène, moi aussi j'ai travaillé les textes. Voilà, pour pouvoir les diriger aussi. Ouais.
Qui sont vraiment de la musique, en fait.
Oui.
Quand on les mémorise et quand on les interprète.
Ah oui, c'est une musique musicale. Mm-hmm. Et avec des effets d'écriture, comme par exemple, donne ses muscles, etc. Et c'est une accumulation comme ça pour arriver à une longue phrase sur ses muscles donne un geste clair. Voilà. Voilà. Mais ça pouvait être aussi quelque chose comme seul tu redes as. Les gens sont toujours couchés, soignent. Pas car actu ar agit de côté un corps n'est pas art, etc. Mmh. Voilà. Donc, ou astilla, pontilla, stampilla, tanitia, 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 tanitia. Voilà. Et donc, une des seules choses que Georges nous a demandé, c'est de ne pas transformer ces partitions. Donc on a fait de la broderie gestuelle avec, contre, autour des partitions musicales ou des textes musicaux. Voilà.
Et aussi pour que la voix sorte, non ? Enfin, que la voix et le geste soient...
Liés. Mais il y a des moments, d'encore une heure, où... Il n'y a pas de. La musicalité est donnée par les caisses qu'on manipule. Il y a des chorégraphies de caisses. Donc, c'est pas uniquement. Il n'y a pas uniquement les textes et les partitions de Georges, en fait. On dialogue, en fait. C'était un grand dialogue musical. Qui est efficace. Hein, puisqu'en plus, on a repris cette pièce en 2014. Avec 3 Catalans, et ça a très bien marché aussi. Donc c'est une pièce qui aurait pu tourner pendant 50 ans.
En fait, c'est toute une scénographie, tout un univers qui dénonce quand même une absurdité des papiers, de l'administration. Enfin, je sais pas, il y a plein d'images.
Il n'y a aucune information psychologique les propositions d'appareil, ni même dans le travail des acteurs. J'ai jamais utilisé des termes psychologiques pour les diriger, par exemple. Oui, il y a une espèce d'absurdité. D'abord, ces personnages, ils sont un peu... pour les qualifier, ils sont un peu peureux, ils sont un peu, ils ne savent pas dans quel espace ils sont. En plus, moi, ce qui me plaisait bien, c'est que la scénographie, elle est tout le temps en train de se transformer, mm-hmm. parce qu'ils déplacent les caisses, mm-hmm. et du coup, ils se déplacent eux-mêmes par rapport aux caisses. Donc, du coup, ça forme des scénographies mouvantes et des contextes différents à chaque fois pour les personnages, en fait. Voilà. Donc à un moment donné, ils vont se trouver dans une jungle, à un autre moment, ils vont se retrouver dans un bateau, dans un autre moment, ils vont être dans une tempête. Mais c'est pas signifié comme tel. En fait, le spectateur, il y voit ce qu'il a envie d'y voir aussi. Mais l'essentiel, c'est que c'est le rythme, en fait. C'est ça qui tient l'ensemble, c'est le rythme.
Désir. Donc, ce... Désir. Pourquoi donc ce désir?
Mais je ne veux pas ça.
Pourquoi donc ce désir? Donc, ce désir, je lui cède.
Je ne veux pas ça.
Pourquoi? Donc, ce désir, parfois, je lui cède. Pourquoi? Donc, ce désir
fait son toucher.
Parfois, je lui cède.
Mais je ne veux pas ça.
Pourquoi? Parfois, je lui cède.
Mais je ne veux pas ça.
Pourquoi?
Blanc sous masque. Tu parles de blanc sous masque?
Oui, les blancs, qui est une fresque historique, okay, et oui. Politique même, du mime.
Oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, à l'origine, on a eu une commande de théâtre d'appartement sur l'histoire du mime. Bon, alors, ça a donné lieu à une pièce qui s'appelle « Faut-il croire les mimes sur parole ?» Donc, il marchait très bien avec Ivan Baciocchi comme acteur. Et après, on nous a dit « Ah, mais ça, c'est très très bien, mais on aimerait voir davantage d'images. » Donc, on s'est dit « Bon, ben, on va reprendre l'histoire, mais on va la théâtraliser davantage, dans un grand espace, avec les bouffons qui racontaient l'histoire du mime. » Et en faisant référence aussi à des périodes historiques particulières et à des extraits de spectacles ou de films. Par exemple, on reprend à un moment donné la célèbre séquence dans Les Enfants du Paradis, mmh. où Jean-Louis Barrault, le Baptiste, en fait, mime la scène du vol de la bourse d'un bourgeois. On reprend aussi, par exemple, La danse de la sorcière de Marie Wigman. Mmh. On reprend aussi les éléments de Meyerhold, justement, les dactyles. On reprend La danse des bâtons de Schlemmer. Voilà. Où on redonne le contexte, en fait, dans lequel le mime aussi s'est développé à ce moment-là. On a remonté des extraits de l'usine et des extraits des arbres de Crou. Donc on redonne un peu à voir toutes ces... On contextualise, même par rapport à l'arrivée du nazisme. Mmh. On reprend aussi Chaplin qui joue avec la terre, avec le globe. On le fait, mais c'est Ivan qui le fait avec des images projetées de d'avions qui jettent des bombes, etc. Avec la musique
du dictateur.
Voilà. Pareil,
du film,
voilà, hein. Ça. Donc on est voilà. Et en fait, enfin, c'est une histoire. C'est une histoire du silence. En fait, du silence des mimes. Le mime, en fait. Comme il est condamné au silence, hein, mais ça remonte très loin, hein, ça remonte dans toute l'histoire du mime, on retrouve ça sur les ponts neufs, on retrouve ça dans les foires, le mime a été interdit partout, il a été interdit par l'Église, il a été interdit par Napoléon, il a été interdit par le Roi Soleil, c'était pas les comédiens français, donc ils étaient interdits de parole, etc. Donc et ils se débrouillaient pour faire passer des messages autrement, en faisant lire l'histoire par les spectateurs. Enfin bon, voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme il est interdit de parler, il va prendre cette contrainte comme un principe esthétique. C'est-à-dire, renverse la chose pour dire, eh ben, on traite le silence, en fait. On nous interdit de parler, ben, on traite le silence. Et dans le silence, qu'est-ce qu'on peut apporter, en fait, voilà. Et même aujourd'hui, je dirais, je me posais la question d'ailleurs de l'effacement. Hein, l'effacement du mime est peut-être justement une conséquence aujourd'hui de l'effacement des formes corporelles par le théâtre de texte.
C'est pas bon signe.
Non, c'est pas bon signe du tout.
Non, c'est pas très bon signe. Mentalement, il faut bouger, en fait. Enfin, que ça va ensemble et que si tu continues à diviser ça, c'est dangereux.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a un théâtre de texte qui contribue à ce danger-là parce que il divertit seulement ou il renforce un système, on va dire, déjà très ancré et qu'il faut pas... Ça a toujours été un fil du théâtre du mouvement de faire un théâtre très documenté et quand même de fouiller dans les liens, on va dire, politiques.
Voilà, on fait pas du théâtre politique. Mais on n'a pas fait du théâtre politique.
Non.
Mais la manière dont on faisait du théâtre était politique. Par le poétique, on arrivait à du politique. Mais on n'a jamais dit... On a été plus militant du mime que militant politique, on va dire.
Vous faites des prises de conscience moi c'est ce que j'appelle un peu de la conscientisation, de la responsabilité, oui, profonde. Alors c'est pas de la politique politiquante, je crois que j'ai lu ça dans le livre, mais ça donne de la matière à simplement dire we must think, on doit continuer à penser, continuer à être, continuer à toucher.
À être conscient.
Et à chercher. Enfin, les choses ne sont pas forcément...
Ouais. Rien n'est définitif. Tout est
ne pas renoncer. Ne pas renoncer, continuer. Et c'est une transition pour parler d'Aeterna. Je vais peut-être laisser la parole à Elsa.
Oui.
Pour qu'elle nous raconte c'est quoi ce projet d'Aeterna.
Sur le féminin.
Sur le féminin, sur la non-mixité, sur renouer avec... reprendre une place. Parce que la femme, elle a été un peu comme les mimes, un peu silenciée. Quand même.
Oui.
Plus que.
Mais c'est sûr que l'image du mime, c'est l'image d'un homme seul sur scène. C'est quand même la référence, c'est quand même Marceau.
Oui.
Après, c'est Michael Jackson.
Oui, aussi.
Voilà. Mais
dans sa version.
C'est difficile de faire accepter qu'il puisse y avoir une troupe de mimes.
Et des femmes mimes.
Et des femmes mimes. Voilà, qui soient. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident.
Je vais lire un peu à Aeterna comment il est la présentation. Elle est la fille, elle est la mère. Elle est la fille et la mère. Un corps juvénile et un corps vieillissant se mettent au diapason afin d'accueillir leurs différences et d'en faire une force. C'est-à-dire se confronter sans se blesser. Continuer à tisser du lien. Garder le fil quoi qu'il en soit. Le spectacle donne à voir la relation mère-fille comme un laboratoire de la réciprocité et des échanges intergénérationnels. Élaborer ensemble, créer et transmettre permet de résister au monde de la consommation et de l'individualisme. À partir de rituels féminins imaginaires, Aeterna fait la part belle à une transmission bien réelle d'un féminin archaïque qui traverse les générations et qui, parfois, échappe aux hommes qui le côtoient. Aeterna est une célébration du vivant, une ode à la tendresse et à l'attachement, inaltérable, discret et fiable, d'une mère et de sa fille, dans la fiction comme dans la réalité. Je te laisse la parole, peut-être, Elsa. Est-ce que ça pourrait tourner ?
Le spectacle ?
Oui.
Je pense qu'il a un peu tourné, mais qu'il va, maintenant, il s'est arrêté.
Le Covid a été, un franc arrêt.
On avait lu un livre qui nous a beaucoup plu toutes les deux, où quelque part, en fait, il parlait pas des femmes. Et c'est ce qui nous a intéressé. On s'est dit, mais du coup, ces femmes, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi leur place, c'est quoi. Et du coup, on a. Bah, en fait, je crois que. Enfin, avec le recul, je pense qu'on cherchait juste un prétexte pour travailler ensemble. Et maintenant aussi, avec le recul, et aussi parce que j'en suis à cet endroit-là de ma vie, j'ai toujours pensé que les femmes qui devenaient mères cachaient des espèces d'énormes secrets. Mmh. Auxquelles les autres n'avaient pas accès, comme s'il y avait une sorte de cercle de femmes ou de tribus ou qui s'échangeaient des secrets, un peu comme dans certaines cultures traditionnelles où c'est que les hommes qui ont accès à ces secrets ou ces choses-là. Et je pensais vraiment, même dans nos sociétés actuelles européennes, qu'il y avait quelque part quelque chose d'assez secret et tabou dont on ne parlait pas si on n'était pas en train de devenir mère. Et du coup, je suis en train de découvrir et de mettre un doigt de pied dans cet endroit-là et de découvrir aussi qu'est-ce que c'est que tous ces rituels, toutes ces choses que je pouvais pas comprendre avant et que j'avais pas accès avant. Et quelque part, le spectacle en filigrane, en fait, c'est cette transmission qui se fait. Donc on est toutes les deux sur scène, mais il y a aussi une marionnette qui joue le rôle de ma fille. Donc c'est voilà comment ça. Ça passe de génération à génération, comment on arrive à passer toutes les étapes, toutes les épreuves de la vie en gardant ce lien, en fait, ce lien de mère à fille. Et puis voilà, puis ce moment où on devient aussi mère en tant que fille et qu'on se met aussi à comprendre des choses de notre propre mère. Et puis le cycle qui recommence. Mais avec aussi toutes les colères, tous les combats, toutes les fragilités. Et effectivement, comment garder le lien malgré...
Moi, je me souviens que j'ai été très touchée pour plein de raisons, mais une en particulier, c'est que vous y allez. Hein, y a des moments où tout n'est pas tendre. Il y a des moments assez, même des scènes un peu violentes ou un peu osées, ou même, enfin, où on se dit, ça tient, c'est quoi, ça veut dire quoi. Et donc la relation, elle est déplacée, elle est remise en question. Elle est... Et puis pour finalement se réaffirmer justement dans l'échange, la douceur. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup émue parce que justement les gynécées, les lignées, les femmes sont très seules. Et c'est pas forcément évident justement d'arriver à créer des espaces comme ça. Parce qu'on a été tellement silencieux, parce qu'il y a tellement de tabous, de secrets, de luttes, de violences, qu'en fait c'est un long travail et que voilà, j'avais l'impression que ce spectacle tendait la main pour se dire ah bon, on y va, Claire, c'était vécu un peu comme ça ou...
C'était l'idée de la transmission, en fait. C'était l'idée de la transmission qui courait tout du long, en fait, y compris jusqu'à la disparition, au final. De la mère. Bon, c'est important de donner ces différentes étapes parce que c'est pas forcément ces étapes-là, on n'en a pas forcément conscience quand on est face à ça. Ou même pour initier aussi des personnes dans le public, dire bon, voilà, c'est aussi la vie, ça, en fait. C'est pas. C'est une. Donner des images de la transmission, mais c'était aussi une transmission entre nous. À ce moment-là, tu n'avais pas encore tellement développé la relation à l'objet, toi.
C'était le premier vrai grand spectacle dans lequel il y avait aussi de la musique, des marionnettes. En tout cas, qu'il y avait ce développement dans le rapport à l'objet qui n'était pas ma flûte.
Voilà.
Ouais. Donc c'était une manière de faire aborder ça.
De donner la transmission... Il y avait une réelle transmission, en fait. Et en même temps, dans cette transmission, il y avait aussi le questionnement, son questionnement en face. C'était dynamique, c'était pas... Je te transmets de haut vers le bas, quoi. C'était vraiment dans un échange. Et puis ce qui était important aussi, c'était de trouver la dramaturgie de ça, quoi. Tu vois, que c'est pas forcément simple. C'est pas un long fleuve tranquille qui va de A à B, mais que y a des choses qui se passent entre temps, ça, voilà. Et de pas traiter tout de la même manière. Le moment de l'accouchement, par exemple, c'était pas l'accouchement, c'était pas un, c'était une suite d'accouchements successifs, en fait, voilà, qui donnait aussi à un moment donné, ça va. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Non, y avait cette dimension-là, tu vois.
Il y a beaucoup de circularité dans ce spectacle, oui. Dans la musique. Enfin, tu joues aussi de la flûte. Et si je me souviens bien, ou même d'autres instruments, non ?
Je joue trois flûtes différentes.
C'est ça.
Deux flûtes différentes, le piccolo on le joue pas.
Le piccolo, c'est la marionnette qui fait semblant de jouer de la
musique. Et aussi les compositions que j'avais fait avec Irina Prieto Botella.
Par exemple, à la fin, quand la mère disparaît, de trouver d'autres sons pour la flûte, par exemple les sanglots, le moment des sanglots, comment elle pouvait les avoir et comment ça pouvait produire des sons particuliers. Ou la colère, ou...
Oui, ça c'est vraiment un truc après que j'ai compris et développé aussi dans mon travail, c'est que au départ, je savais pas comment bouger tout en jouant de la musique. Du coup, j'étais partie de partitions musicales pour ensuite faire des chorégraphies dessus. Et dans ce spectacle, on a essayé l'inverse, c'est-à-dire partir du corps. Sur cette partie du deuil, c'était partir en fait de sanglots, d'un mouvement du sternum qui amenait une sorte de halètement de sanglots, et donc composer la musique à partir du corps et non pas dans l'autre sens. Donc ça ouvrait aussi des possibilités. Dans ce rapport entre corps et musique.
Dans Inventaire animé, il y a un moment où tu nous montres réellement, comme démonstration, ce que ça donne et comment ça change la musique que de partir du corps. Et ça dure, excuse-moi, très peu de temps. Et on aimerait vraiment que ça... Enfin, moi, tu pourrais faire 3 heures de spectacle rien que sur ça. C'est merveilleux. Parce que, en fait, le son et l'instrument... explose comme avec l'énergie du corps, avec le... Enfin, le son n'a plus rien à voir, quoi. Ça crée des nouveaux sons.
Oui, alors ça dépend effectivement comment c'est composé. Est-ce qu'on parle de la musique, est-ce qu'on parle du corps, comme ce que je disais juste avant. Après, voilà, mon travail, c'est de mettre en mouvement les musiciens, de me mettre en mouvement tout en jouant. on m'a proposé de danser sur le Pierrot Lunaire de Schoenberg.
D'accord.
Et je me suis dit, waouh, 50 minutes de danse solo avec juste les musiciens qui m'accompagnent derrière. C'est une œuvre très, très, très complexe, très compliquée à écouter. Bon, bien sûr, il y avait le côté mime, blanc, tout ça qui pouvait aussi correspondre avec la chorégraphie, tout ça, mais... Moi, ça m'intéressait pas et j'avais déjà commencé à travailler sur les mouvements pour les musiciens. Et donc, j'ai proposé aux musiciens, en tout cas, de monter ce projet avec des musiciens qui étaient partants pour essayer des choses. Donc, se mettre en mouvement, incarner des personnages, voilà. Et du coup, j'ai fait la mise en scène de ce Pierrot Lunaire en les mettant en mouvement.
Que tu interprètes.
Et que j'interprète aussi. Donc, moi, en tant que Pierrot, la flûtiste qui était deuxième flûte de l'Orchestre du Capitole, qui est maintenant flûte solo à l'Orchestre National de France, avec qui je continue ce projet, mais en duo, qui jouait Colombine. Les autres musiciens jouaient aussi des personnages qui étaient mis dans l'action. Ils se sont prêtés au jeu, et puis ça a donné un spectacle de 50 minutes.
D'accord.
Où les musiciens étaient en mouvement sur la musique de Schoenberg.
Waouh, mais pas forcément qu'en jouant.
Oui, alors en fait, sur ce Pierrot Lunaire, c'est 21 poèmes, et tous les musiciens ne jouent pas sur toutes les pièces tout le temps. Donc parfois, sur les morceaux qui étaient plus faciles, en homorythmie, ou sur des choses plus simples à jouer, je leur avais demandé d'apprendre les morceaux par cœur. Et du coup, je leur avais proposé des chorégraphies dessus.
Mmh.
Et puis parfois, quand il y en a qui jouaient, d'autres qui ne jouaient pas, comment les intégrer au spectacle en tant que personnage, en tant que bougeur, en tant que... Alors les personnages, ça dépendait. Il y en a qui étaient incarnés, par exemple, qu'ils utilisaient leur violon, leur alto, leur violoncelle comme des masques en train de se déplacer, ou comment l'archer devenait une épée pour décapiter Pierrot, ou comment je trépanais violoncelliste avec ma flûte traversière. Donc voilà, on est allé chercher sur des images qui pouvaient être créées
avec juste l'instrument.
Juste avec l'instrument pour aller chercher d'autres manières de jouer, d'autres manières d'utiliser les instruments, et puis après essayer de trouver une dramaturgie à tous ces petits extraits, parce que c'est 21 poèmes qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres. Enfin, c'est pas une histoire en continu, donc il a bien fallu quand même essayer de trouver une continuité dans tout ça, en tout cas une certaine dramaturgie.
Et pourquoi Pierrot est une femme et une flûtiste? Ou comment? Enfin, ça doit raconter quelque chose, non? Parce que c'est un rôle traditionnellement d'homme, Pierrot, non? Enfin...
Bah, on m'a proposé. J'ai dit oui. Par rapport au rôle de Pierrot, s'il est incarné par une femme, qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas. Je sais que moi, personnellement, être sur scène en tant que femme ou homme, ça change rien pour moi.
Ça raconte ça, déjà.
C'est un corps qui bouge, c'est un corps incarné. Je joue pas particulièrement l'homme, j'ai juste un bonnet de piscine sur la tête pour jouer le calot de Pierrot et cacher mes cheveux longs. Mais
la soutenille, quand même.
La soutenille de Pierrot. Ouais. Donc ça cache un petit peu le féminin trop. C'est un être, un personnage, c'est pas un homme ou une femme. Pour moi, c'est une histoire d'amour qui se raconte entre deux personnages. Et puis, d'ailleurs, même Colombine, en fait. Elle a les cheveux courts, elle n'est pas forcément hyper féminisée ou quoi que ce soit. C'est vraiment une rencontre entre deux personnages. Et puis...
J'ai deux figures blanches.
Mais c'est quand même... C'est bien, justement, que ce soit, ce soit un peu décentré aussi, là, qu'on aille frotter sur des frontières ou des bords et voir ce que ça raconte, en fait, et si c'est possible.
Donc on a continué ce spectacle après en duo avec cette flûtiste Joséphine Poncelin, et on l'a fait sous différentes formes, soit en spectacle à deux, soit en spectacle qu'on tourne dans les conservatoires. Je forme les élèves en amont cette notion de bouger avec l'instrument. On crée des tableaux ensemble qu'on insère ensuite dans notre spectacle. Mm-hmm. Mais on a aussi fait des ateliers pédagogiques à Radio France avec, avec des enfants, mm-hmm, autour de ce thème-là, et avec des extraits de spectacle. Et c'est intéressant de voir les réactions d'ailleurs. Il y en a qui disent « Ah, oh, ben moi je savais que c'était une fille !» Ou au contraire, il y en a qui partent, mm-hmm, en disant « Au revoir, monsieur mm-hmm. !» Donc c'est...
Mais ça questionne.
Mais ça questionne et en même temps, ça ne dérange pas. Mm. Donc moi, à la base, j'ai vraiment cette formation de flûtiste avant tout, même si j'avais fait de la danse contemporaine, classique, beaucoup expression africaine, hip-hop, flamenco, un peu dans tous les sens. Et quand j'ai fini mes études donc en flûte traversière, j'ai voulu commencer à expérimenter des choses avec l'instrument, à sauter, à rouler au sol, à bouger avec, à voir ce qui était possible ou pas. Et puis, en reparlant du coup de la musique du 20e siècle et du côté analytique, pour moi, la manière qui m'a permis d'allier le corps et la musique, pour le côté du mouvement, ça a été cette notion de musicalité du mouvement. Donc comment cette musique visuelle pouvait venir dialoguer avec la musique sonore. Mmh. Et du côté du mouvement, ben, du coup, je suis allée voir plutôt du côté Laban. J'ai suivi une courte formation, j'ai pas eu l'occasion de faire toute la formation Laban. Mais de pouvoir voir comment s'articuler cette notation du mouvement entre, mmh, entre le temps, l'espace, différents paramètres comme ça. Et j'avais pu, pendant mes études aussi, voir une pièce d'Olivier Messiaen qui s'appelait « Mode de valeur et d'intensité » pour piano, qui était une musique sérielle, et qui se basait... Enfin, l'écriture se basait sur quatre paramètres qui étaient celles du temps, des noirs, des croches, des blanches, mm-hmm, celle de l'ambitus, est-ce que c'était aigu, est-ce que c'était grave, mm-hmm, celle des nuances, est-ce que c'était fort, est-ce que c'était pas fort, et celle de l'articulation. Et donc à partir de ces quatre paramètres, il composait de manière sérielle.
Alors attends, l'articulation en musique,
est-ce que je fais une attaque entre deux notes, ta-ta, ou est-ce que je fais par exemple une liaison ta, ou est-ce que je fais une liaison mais avec un point à l'arrivée, ta. Ou est-ce que je... Voilà, l'articulation, c'est ça.
Génial, oui.
Voilà, mais... et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait très bien coupler ces paramètres. Par exemple, la notion du temps, c'était la même, que ce soit pour le mouvement ou la musique. La notion de l'ambitus, est-ce que c'était grave, est-ce que c'était aigu, pareil, est-ce que je pouvais faire, je sais pas, avec une partie en haut du corps ou en bas du corps, ou est-ce que c'était un mouvement qui allait vers le haut ou qui allait vers le bas. Sur la question de la force, enfin de la nuance, est-ce que c'était cette question de la force, donc de la résistance musculaire, ou est-ce que ce serait plus visible sur la question de l'amplitude du mouvement. Mmh. Donc comment coupler ces paramètres pour pouvoir imaginer que chaque mouvement pourrait avoir une note et chaque note pourrait avoir un mouvement. Mmh. Donc que chaque mouvement pourrait avoir une chorégraphie, chaque morceau pourrait avoir une chorégraphie et chaque chorégraphie pourrait avoir un morceau de musique. Mmh. Donc créer du lien et des ponts comme ça. Et après se poser la question de est-ce que je fais la même chose entre le corps et la musique ? Est-ce que je suis dans une paraphrase des deux ? Ou est-ce que je suis dans le dialogue ? Ou est-ce que je suis dans l'opposition ? Donc d'une manière très analytique, en fait, j'ai commencé à essayer d'expérimenter. Mmh. Et puis progressivement, c'est devenu aussi un outil pédagogique, mais un outil de composition, de création.
Super.
Et donc le travail sur la musicalité du mouvement, du théâtre du mouvement, a été un gros bagage, mmh, beaucoup d'outils pour moi, pour développer tout ce travail avec les musiciens maintenant.
Bon, super, ça va faire naître une nouvelle musique et un nouveau mouvement.
Voilà.
dans la réciprocité. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai vu l'autre jour sur scène, c'est qu'en 30 secondes, tu as montré juste comment, avec ton corps, tu changeais ce qui sortait de la flûte et ce qui sortait de la flûte changeait ton corps.
Il y a une causalité d'une chose sur l'autre.
C'est ça. Voilà. Donc, on revient au dialogue, à la réciprocité. Et. L'inventaire animé, vous le finissez par un mot,
ouais.
Altérité.
Ouais.
J'avais des larmes aux yeux d'entendre ça parce qu'en fait, on avait une longue démonstration très dense. Hein. C'est un spectacle, moi j'aurais besoin de le voir au moins 3 ou 4 fois. Et en même temps, c'est une leçon de choses très très simple que je voudrais montrer à tous les enfants parce que ça apprend le rapport au sol, les poids, la gravité, l'appui, à droite, à gauche, en bas, en haut, monter, descendre, les oppositions. C'est en fait la physicalité la nature des choses dans lesquelles nous vivons, tout simplement ça. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Quand est-ce que ça commence à jouer? Et c'est pourquoi? C'est pour aller vers le visage de l'autre, le corps de l'autre, et vivre avec l'autre. C'est ça, l'altérité.
C'est-à-dire que travailler avec l'objet, l'objet, c'est une altérité radicale. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'état d'âme. Il est inerte et il a des propriétés physiques, matérielles, mais il faut faire avec. Donc c'est au corps d'aller vers l'objet. Et, voilà. Et donc pour moi c'est une pratique et un entraînement à l'altérité, à l'autre. C'est-à-dire que l'objet, entre autres, il faut s'effacer pour le laisser passer. Quand je suis sur un trottoir et qu'on est trop nombreux à arriver en face à face, qui va s'effacer pour laisser passer l'autre? C'est une manière d'apprendre à s'organiser.
La relation.
Par rapport à l'autre, c'est la relation. Et la relation corps-objet, c'est une exploration de ces possibles-là. L'objet est un grand professeur. Il est un grand professeur. Parce que. Il nous oblige à nous organiser autour. Du coup, on est obligé, en tant qu'acteur, pour moi, ce qui m'importe, c'est de faire la différence entre la manipulation et l'animation de l'objet. Comment je vais animer mon objet et non pas comment je vais le manipuler. C'est-à-dire, être dans un sens, est-ce que je suis centripète, est-ce que je ramène l'objet à moi, est-ce que c'est ma propriété, est-ce que c'est mon accessoire, ou est-ce que c'est moi qui va à l'objet, c'est moi qui vais à l'objet, c'est moi qui vais m'organiser en fonction de l'objet, en fonction des désirs de l'objet. Et ça, du coup, ça oblige de se situer, comme disait De Croo, l'acteur est sujet et objet d'art, c'est-à-dire il doit montrer son art sans montrer sa personne, c'est-à-dire que je peux être sujet manipulant un objet, mais je peux être sujet au service d'un objet qui devient lui-même sujet par le fait que moi, l'objet m'objective. C'est-à-dire que si je me mets au service de l'objet, l'objet devient sujet. Mais en retour, comme l'objet devient sujet, la manière dont il fonctionne va m'affecter intérieurement, profondément. Donc c'est un jeu d'aller-retour. Quand on parlait d'attention tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire en quoi l'objet m'exporte, m'exile de ma centralité, me désaxe, me décentre, et en me décentrant, comment il me fait découvrir le monde autrement, qu'est-ce que ça m'apprend de l'objet, mais qu'est-ce que ça m'apprend aussi pour moi, la manière de bouger. Si à un moment donné j'absente l'objet et que je garde la gestuelle, c'est tout à fait autre chose qu'une gestuelle centralisatrice ou globale, comme on la voit en permanence en ce moment. Voilà. Donc,
pour les auditeuristes, une gestuelle globale, c'est comme on la voit en permanence.
C'est-à-dire que...
Un exemple.
C'est le corps en entier qui bouge entièrement, on va dire. Par exemple, dans la danse, on voit beaucoup ça. On voit beaucoup une globalité en mouvement. Voilà. Mais tout ce qui est de l'ordre de la localité,
d'accord,
beaucoup moins. Voilà. Et si l'objet m'entraîne, je suis obligée d'articuler mon corps élément par élément, depuis la prise de l'objet jusqu'à mes appuis. Comment ça va se dérouler, comment ça va se déplier pour aller au service de l'objet, ce qui est autre chose que de simplement manipuler, d'être dans du centripète ou dans du centrifuge. Le centrifuge va m'amener à animer l'objet. Le centripète, c'est je manipule l'objet.
Alors, vous, toutes les deux qui êtes pédagogues, il y a une chose qui passe très bien dans l'inventaire animé, c'est ralentir la lenteur. Et apprendre de la lenteur, je pense que c'est valable dans le mouvement, mais c'est souvent ce qu'on demande à l'élève musicien aussi, c'est-à-dire plus tu ralentis, plus tu vas aller vite. D'où encore un aphorisme. Tu peux nous le redire, celui-là. Ouais.
Cocher, ralentissez, nous sommes en retard.
Voilà.
Plus tu es en retard, plus il faut ralentir. Voilà. Et... Ça veut dire qu'il faut, il faut différer le moment d'arrivée. Il ne faut pas se précipiter, terminer le mouvement. Il faut mettre du temps avant de, d'arriver au but.
Est-ce que tu as pratiqué le buto ou tout, toutes ces danses qui ralentissent, Claire, un peu ?
Non. Non. Mais on, quand le directeur du Festival d'Avignon avait vu les mutants aux hivernales d'Avignon, il avait dit « Oh, ils font du buto
!» D'accord.
Avant que le buto débarque
avant que...
en France, okay. Vous faites du buto. Bah, non, on n'a pas fait de buto, on a fait du de crew. Voilà. Et l'exigence de Crousienne est équivalente à l'exigence du buto.
J'aurais pu aussi nommer Fight and Christ, hein, qui demande de ralentir et de décomposer et de faire d'abord un seul côté, voir ce qui se passe, prendre le temps de sentir. Et c'est énorme comme révélation et même reprogrammation du corps qui après retrouve beaucoup d'habileté à prendre le temps de cette transformation là.
Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'attention, l'écoute intérieure, l'écoute attentive. C'est ça qui fait, qui est l'humus, en fait, d'une présence, d'une imagination, d'un imaginaire. Et, parce que, par exemple, si on prend un trajet de Paris à Marseille, si j'y vais en TGV, je vais avoir certaines images en cours de route. Si j'y vais en voiture, j'en aurai un peu plus. Si j'y vais en vélo, j'en ai encore plus. Et si j'y vais à pied, j'aurai... Voilà. Donc, quand on fait un travail sur la lenteur, on fait comme si on écoutait chaque millimètre de mouvement. En fait, chaque centimètre de mouvement. Et on peut découvrir des sensations, on peut découvrir des images, on peut retrouver des mémoires. On peut trouver toute une épaisseur à l'intérieur de ça. Ça interpelle des tas de choses à l'intérieur du corps, si ce n'est simplement aussi l'écoute du mouvement, par où il passe, par quelle partie de corps, qu'est-ce que la lenteur m'oblige à faire pour trouver la manière de continuer la lenteur, par exemple, par quel cheminement, par quel biais il va falloir que je passe, qui n'est pas forcément un trajet direct, mais on est toujours obligé de transiger. Donc, je parlais de transaction tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire on est toujours en train de faire des transactions pour continuer à assumer la lenteur, même si corporellement on ne peut pas l'assumer. Donc on est obligé de trouver des chemins différents. C'est très riche parce qu'on est tout le temps en train d'ajuster, d'améliorer, d'aménager, de transiger, de... Voilà.
C'est un accordage un peu...
Tout le temps. De seconde en seconde, on pourrait dire qu'on n'est pas pareil d'une seconde à l'autre. L'univers qu'il y a derrière est changeant en permanence. La géographie corporelle se transforme en permanence. De quoi disait l'esprit est égalitaire, le corps ne l'est pas. C'est-à-dire, si je considère que je dois en lenteur permanente, continue, d'un point à un autre, mon corps il est obligé de s'organiser pour pouvoir assumer cette lenteur d'un point à un autre.
Ouais. C'est sentir quand même, prendre le temps de sentir qu'il y a 100 000 chemins.
Ah oui, absolument.
Ou en tout cas, un pour chacun. Ouais. Ou plusieurs pour chacun, mais enfin voilà, enfin, on peut aller au même endroit par diverses routes. Bon, c'est super, on a beaucoup parlé. Est-ce que tu veux bien nous lire le texte que tu as écrit dans le RER ?
Ah oui.
Que tu as écrit pour Attention à Marche, qui est quand même le premier spectacle conférence.
Alors non, c'est pas pour Attention à la Marche, parce que Attention à la Marche, c'était avec tous les acteurs, tout ça. Là, en fait, c'était si la Joconde avait des jambes. Et là aussi, j'essaie de trouver une grammaire de la marche, une analyse des marches au quotidien, pour savoir comment ça marche la marche, par où ça passe, comment on peut la transformer, comment on peut trouver les tendances de chacun, comment on peut tenter d'effacer ces tendances, est-ce qu'on peut inscrire d'autres tendances, et comment on va constituer des personnages à partir de démarches particulières. Et là, c'est là qu'on avait des jambes, c'est une manière d'approcher la marche suivant sa musique, la petite musique de la marche, soit suivant l'espace Et puis suivant le corps, les transformations corporelles aussi. Voilà. Quand je l'ai écrit, j'étais à ce moment-là très très intéressée. Enfin, je veux dire j'avais vraiment envie de faire sentir qu'est-ce que c'était de prendre des appuis sur le sol. Que c'est pas juste je touche, mais que quand je touche, je suis touchée. Voilà, en aller-retour, etc. À la croisée des chemins, je suis là, debout, seule, solide sur mes pieds, je m'érige verticale contre la gravité. Sur le sol, je prends appui pour rêver l'horizon, marcher. Je pose le pied là, le sol accueille mon pied là. Double empreinte des corps épris l'un de l'autre, celle du pied sur le sol, celle du sol sur le pied, mémoire vive du relief gravé, en creux, en bosse. Je foule au pied le sol qui me foule en retour, je prends contact, la terre me touche. Par le sol, le sous-sol, par la surface, la profondeur. Par la semelle, je savoure le sel des nouvelles du tréfonds. Par le chant magique de la marche, je réveille les tambours de la terre et j'invoque, pour guider mes pas, Hermès, Orphée et Eurydice, et Dante et Virgile aussi.
Merci Claire. Entendu 5 miniatures de Philippe Hersant, interprétées à la flûte alto par Julia Turel. Et puis récitation numéro 9 de Georges Apergis, interprétée par Martine Viard. Berceuse et sensualité d'Elsa Markel-Liénard et Irina Prieto Botella, musique originale du spectacle A Eterna. Et puis aussi le Pierrot Lunaire opus 21 d'Arnold Schoenberg, interprété par les musiciens de l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Elsa Markel-Liénard. Merci infiniment Claire Egan, merci Elsa Markel-Liénard. Évidemment, je vous recommande d'aller consulter les fiches de ces deux émissions avec le Théâtre du Mouvement. Pour aller plus loin, vous allez trouver beaucoup de liens. Et je vous remercie de votre écoute, de vos réactions éventuellement sur le salon de l'émission, sur le chat de la radio, causecommune.fm. À très bientôt.